125e décès sur les routes calédoniennes. Il s'agit d'un motard qui a percuté une voiture lors d'un dépassement à la sortie de Tomo. L'accident s'est produit aux alentours de 13h30. Ce week-end, les Calédoniens pouvaient profiter de différents marchés. Ce matin, c'était le marché Broussard à Boulari au Mont-d'Or. Et à Nouméa, les Calédoniens pouvaient profiter des produits de marée au marché du Bétitchou. Après le choc de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison, la présidente du tribunal est pointée du doigt pour son manque d'impartialité. À l'étranger, les vols d'appareils volants non identifiés dans l'espace aérien de pays européens inquiètent de plus en plus les autorités. Plusieurs survols ont été détectés en Allemagne et au Danemark. En sport, Marc Marquez au 7e ciel. Grâce à sa 2e place au Grand Prix du Japon, l'Espagnol remporte un 7e titre mondial dans la catégorie reine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. À la une sur le territoire, un nouvel accident mortel cet après-midi. Accident de moto à la sortie de Tomo juste avant le pont de la Tontuta. Le pilote a percuté un véhicule qui tournait lors d'un dépassement. L'homme était âgé de 66 ans. La circulation était totalement interrompue dans les deux sens pendant près d'une heure, le temps que les secours interviennent. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Ce nouvel accident porte à 27 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Et pour rappel, hier soir, vers 19h15, un automobiliste qui roulait dans le sens Nouméa-Païta sur la voie de dégagement ouest a perdu le contrôle de son véhicule. Sa voiture a heurté une structure en béton à hauteur du pont d'Apogoti, ce qui a nécessité une longue opération de sécurisation. L'homme a été évacué au Medipol. Son pronostic vital n'était pas engagé. La circulation a été déviée au rond-point des Érudits en direction de la ZAC Panda. C'est demain que prend la fin l'interdiction d'achat d'alcool à emporter. Elle avait été mise en place le 18 septembre dernier par le Haut-Commissariat en raison des diverses manifestations prévues et de la journée du 24 septembre. Cette interdiction prend donc fin ce soir à minuit. Et Léo Fichou, il y a d'autres rendez-vous qui sont à noter cette semaine.
Oui, mardi, le Collège des Portes de Fer deviendra le Collège François Olivaux. La cérémonie aura lieu mardi matin, une semaine tout juste après le collège de Magenta devenu le collège Jean Lec. C'est également mardi que débute la visite d'une délégation du Vanuatu à forte dominante économique. Elle restera jusqu'à la fin de la semaine et participera vendredi, samedi et dimanche prochain à la Foire du Pacifique qui sera installée sur la place de la Moselle.
Mercredi, le SMTU procédera à des ajustements sur les 8 lignes du réseau du Grand Nouméa avec des horaires de circulation élargis et des extensions sur plusieurs lignes. Yannick Fèvre, le nouveau dirigeant du SMTU, était sur notre plateau cette semaine pour évoquer les changements.
La première mise en place était vraiment de remettre un service de transport en commun. On savait que c'était pas idéal, mais on l'a fait avec les moyens et le contexte économique du moment. On a choisi de desservir les heures de pointe pour pouvoir permettre aux travailleurs d'aller travailler. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant, et c'est ce qui est ressorti de l'analyse, c'est que là, on va vers quelque chose de plus normal. On va proposer un service continu sur toute la journée. On reste sur 8 lignes structurantes. On a rajouté 2 lignes, mais qui sont des lignes d'heure de pointe, donc on les compte pas vraiment en structurantes pour l'instant, qui permettront de mieux desservir les quartiers. Mais c'est 8 lignes structurantes. On a renforcé les horaires. On a des horaires aujourd'hui qui seront continus sur toute la journée, de 5h du matin à 18h30 le soir.
Parmi les extensions prévues, celle de la ligne D4 à Dumbéa, qui va de nouveau desservir les quartiers de Kuchio et de Yaoué.
Oui, mercredi toujours, pardon, le cluster OpenC organise l'Akagou à l'Arène du Sud de Païta, un événement consacré au numérique et à la cybersécurité avec des ateliers, des conférences et un jeu. Deux rendez-vous à noter également jeudi. La Nuit du Droit aura lieu comme chaque année à l'université à partir de 16h30. À 17h30, ce sera l'inauguration de la Fête de la Science avec de nombreux rendez-vous prévus jusqu'au 13 octobre. Samedi prochain, l'Association calédonienne pour le développement de l'enseignement technique organise le salon Découverte des métiers et des formations. Il aura lieu de 8h à 17h dans le hall d'honneur de la mairie de Nouméa. Dimanche, la ville de Nouméa organise son vide-grenier mensuel sur la place des Cocotiers. Et dimanche prochain, ce sera aussi le pèlerinage de Tomo, dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont la fête sera célébrée mercredi.
Enfin, demain, ce sera la journée mondiale du cœur. Nous en parlerons avec notre invité, le docteur Marie Robin, chef du service de cardiologie du CHT. Quelles sont les pathologies observées sur les territoires? Comment les éviter et améliorer sa santé cardiaque. A-t-on suffisamment de spécialistes? Quelles opérations sont réalisables sur le territoire? Autant de questions que nous poserons à la chef du service de cardiologie du CHT demain à 7h30. Le docteur Marie Robin sera en effet notre invitée du matin. Et puis, dès la fin de ce journal, retrouvez la rediffusion du magazine Transparence. Elisabeth Noir recevait Sonia Lagarde, l'occasion pour le maire de Nouméa d'évoquer l'actualité municipale, mais aussi l'actualité politique calédonienne et nationale.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Ambiance animée ce matin au marché municipal de Boulary. Le marché Broussard mensuel a rassemblé producteurs et visiteurs autour d'étals colorés. Et surprise pour cette édition, en plus des stands habituels, un espace gourmand a permis aux curieux de vivre une expérience savoureuse et conviviale. Parmi les stands, un en particulier attirait les curieux, celui de l'écaillère Richard, associé à l'huîtrière de Dumbéa. Ici, c'est simple, on achète ses huîtres, puis on les fait ouvrir par Nina et Benoît avant de repartir les déguster chez soi.
Pour 500 francs la douzaine, on vous les prépare dans une barquette sur un lit de glace. On propose aussi des petites sauces à l'échalote pour les accompagner et on vous les conserve au frais le temps que vous fassiez votre tour si jamais.
On coupe le muscle directement et je remets la coquille dessus. Comme ça, les gens, ils arrivent chez eux, c'est présentable. Ils ont juste à enlever la petite coquille du dessus. L'huître, elle est déjà ouverte. Il y a juste à mettre en bouche et ça glisse tout seul. C'est fini pour toi.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez pris ?
Des petites huîtres à 1200 francs le kilo. Je dirais que c'est pratique, hein. Au moins on rentre à la maison, on mange et voilà.
Avant de se rendre chez maman, on aura l'occasion d'acheter une douzaine d'huîtres pour faire plaisir à maman. Qui est sous la table, je vais dérouler au printemps ce matin, pour accompagner du frais quoi.
Depuis les exactions de mai 2024, le marché municipal peinait à trouver son public, mais les efforts de la mairie et les animations proposées semblent avoir payé. Les visiteurs étaient ravis de leur passage au marché.
C'est bien, il y a du choix, il y a beaucoup de monde et il fait super beau. Donc c'est super agréable de venir s'y promener.
Ça change et c'est très agréable d'avoir du monde, plus de monde que d'habitude et beaucoup de couleurs et de choses à découvrir.
Moi j'ai l'habitude d'aller sur Ducos, mais c'est un petit résumé de ce qu'on peut trouver à Ducos. Puis sur Boulary, c'est bien, ça remet un petit peu de vie quoi.
C'est super, moi j'habite juste à côté. Quand j'ai appris qu'il y avait le marché Broussard, je suis venue direct. C'est super, on a tout, on a des légumes, on a que des produits locaux.
L'événement sera organisé une fois par mois jusqu'à la fin de l'année au marché municipal de Boulary. Les festivités de Noël seront également proposées dans ce même lieu. Autre marché, celui spécial marée à la gare maritime du Betticho qui a fermé ses portes ce dimanche après-midi, Michael Juneski.
15 jours après la foire des îles à Lifou et une semaine après le marché de Lifou à Nouméa, deux événements qui n'avaient pas eu le succès escompté, les producteurs de Lingonais sont venus avec près de 5 tonnes de denrées alimentaires en appliquant de fortes baisses sur leurs prix pour s'assurer de trouver une clientèle. Un rendez-vous important pour les agriculteurs et les pêcheurs de marée, souvent en difficulté et qui cherchent à gagner de l'argent pour leur activité, mais qui se heurtent à la réalité des impacts de la crise de mai 2024 auprès de la population nouméenne et aux inquiétudes vis-à-vis de la situation politique. Pourtant, les petits prix pour des produits de qualité ont tout de même attiré des clients ce dimanche encore.
On a bien vendu, c'est l'important, c'est ça. On est venu pour vendre, voilà. J'étais un peu, c'est bon. Pas tellement, mais quand même.
Ben, c'est important parce que nous, on fait aussi le marché à Marais. Tous les mardis, tous les vendredis, on a une association. Ça fait que toutes les semaines, on a toujours deux jours de marché. Et puis, on fait des réunions pour venir sur Nouméa.
Ça a été bien marché hier. Mais comme il n'y a pas assez de clients, là, on a baissé le... On a baissé un peu le prix, vidé un peu ce qu'on a amené, vendre un peu nos produits. Quoi. J'ai dit de vendre ici.
Au niveau de la commune, c'est le seul marché qu'on a eu cette année par rapport à la restriction budgétaire. Donc on attendra l'année prochaine après les votes qui vont y avoir.
Et ce sera donc le dernier marché spécial marée à la gare maritime du Betticho cette année en raison, vous l'avez entendu, des restrictions budgétaires. Les producteurs de Lifou, eux, proposeront un dernier rendez-vous avant les fêtes de fin d'année.
17h54, première pause dans ce journal avant de passer à l'actualité nationale et internationale. À tout de suite.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec Lana Colombo.
3 jours après une condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, la peine infligée à Nicolas Sarkozy continue de faire réagir. L'ancien chef de l'État lui-même est sorti du silence pour la première fois dans les colonnes du JDD. Dans cet entretien, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence et veut continuer son combat pour être blanchi. Il dénonce une décision qui, je cite, « viole l'état de droit ». Et d'autres acteurs de l'échiquier politique s'insurgent contre l'incarcération programmée de Nicolas Sarkozy. C'est le cas de Philippe Ballard, le député du Rassemblement national. Il pointe du doigt l'exécution provisoire de la peine.
Quelle que soit la personnalité politique mise en cause, on a exactement la même réaction. Parce que, enfin, si on va au bout du raisonnement, Nicolas Sarkozy a fait appel. Donc il est présumé innocent. Et on verra ce qu'il advient lors de l'appel. Donc on envoie quelqu'un en prison qui est présumé innocent. Enfin, ça va quand même loin. Et j'ai d'autant plus de facilité à le dire que ça a été un adversaire politique pour nous. Mais ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est aberrant, c'est inquiétant et c'est injuste. Il y a une dérive très très inquiétante à la fois pour le système juridique français et pour la démocratie. Il ne faut pas avoir peur des mots.
Philippe Ballard, député du Rassemblement national. Nicolas Sarkozy balaye par ailleurs dans ce même entretien l'idée d'une grâce présidentielle accordée par Emmanuel Macron. Pour être gracié, il faudrait accepter sa peine et donc reconnaître sa culpabilité, ce qui ne sera jamais le cas, dit-il. Il dénonce à travers cette condamnation une sorte de coup d'État judiciaire. Une condamnation de l'ancien président de la République qui est donc une véritable onde de choc. Et désormais, c'est la présidente du tribunal correctionnel de Paris qui est visée pour son manque d'impartialité, car elle a par le passé montré des signes d'hostilité envers Nicolas Sarkozy. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Oui, en 2011, Nathalie Gavarino, présidente du tribunal, manifestait contre Nicolas Sarkozy aux côtés de centaines d'autres magistrats. Une information confirmée par l'avocat de l'ancien président Jean-Michel Darroy vendredi matin.
Je ne veux pas croire que ça ait pu influencer sa décision. Maintenant, je comprendrai que d'autres le pensent.
Une magistrate dont l'impartialité est donc remise en cause par certains, notamment par Pierre-Olivier Sûr, ancien bâtonnier du barreau de Paris, qui était l'invité d'Europe 1 Soir Week-end vendredi.
Il aurait dû indiquer d'elle-même qu'elle n'était pas en mesure de juger une telle affaire. Peut-être que si on avait su, on aurait demandé sa récusation. Les magistrats ne devraient pas avoir le droit de s'enrôler dans des syndicats politisés. Il y a des corps de fonctionnaires qui, à mes yeux, ne peuvent pas prendre part au débat politique.
Les détracteurs de Nathalie Gavarino critiquent notamment sa décision de ne pas laisser Nicolas Sarkozy libre en attendant son jugement en appel. À noter qu'avant-hier, 2 enquêtes ont été ouvertes après la réception de messages menaçant à l'encontre de la magistrate.
Antoine Bienveau pour Europe. De son côté, le chef de la cour d'appel de Paris appelle solennellement dans un communiqué au respect de l'institution judiciaire et de son indépendance. Et notez que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Émission à retrouver sur Radio Rythme Bleu demain soir, juste après Info Soir, votre journal de 17h45. L'actualité, c'est aussi la menace de censure brandie par Marine Tondelier et Olivier Faure. À l'occasion des rencontres de la gauche organisées ce week-end dans l'Aude, le patron du Parti Socialiste et la chef des Verts ont mis la pression sur Sébastien Lecornu. Si rien ne change, les mêmes causes produiront les mêmes effets et donc nous censurerons le Premier ministre dès le discours de politique générale, prévient Olivier Faure. Sébastien Lecornu qui entame une semaine clé pour lui. Il devrait dévoiler le casting de son gouvernement en milieu de semaine. À l'étranger, à présent, les vols de drones dans l'espace aérien de pays européens inquiètent de plus en plus les autorités. Des appareils non identifiés ont survolé avant-hier le ciel de l'Allemagne. Le même jour, le Danemark a dénoncé le passage de ces derniers au-dessus de la plus grande base militaire du pays. Des violations de l'espace aérien qui se multiplient. Berlin et Copenhague soupçonnent une guerre hybride menée par la Russie. Face à cette menace, l'heure est au réexamen de la défense des pays de l'Union européenne et de l'OTAN, avec pour objectif de mettre sur pied un véritable plan de bataille pour repérer et se protéger de ces drones. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Si ces drones n'ont mené aucune attaque à proprement parler pour l'instant, il n'en reste pas moins une menace. Alors l'Allemagne veut changer les règles en autorisant son armée à abattre les drones qui s'introduisent sur son territoire. Et après les multiples incursions cette semaine, une dizaine de pays envisagent le déploiement d'un mur anti-drone. Concrètement, un système de détection, de traçage et d'interception, particulièrement à l'est de l'UE et le long de la mer Baltique. Mais la mise en place d'un tel système de défense, bien que possible, reste complexe sur un tel périmètre, estime le général de l'armée de l'air Bruno Clermont.
D'abord, on n'a pas les moyens, ça coûtera très cher faire un mur étanche sur 2500 km de frontière. En plus, aucun système ne sera évidemment efficace à 100%, donc on est à peu près certain qu'il y aura au moins 10% des objets qui vont passer, puis 10% des objets qui passent, ça fait quand même déjà très mal.
Coût estimé plusieurs milliards d'euros pour le déploiement d'un tel système, et la défense européenne doit aussi passer par les canaux diplomatiques. Bruno Clermont.
Il y a un autre sujet sur lequel il va falloir travailler, à mon avis, dans les mois qui viennent, c'est de rétablir, relancer des traités de contrôle et de réduction des armements dans les rapports de force entre l'Occident, la Russie et la Chine.
Des sujets qui seront au cœur des discussions entre dirigeants européens mercredi à Copenhague.
Wilfried de Villers pour Europe 1. À l'étranger toujours, en bref, Donald Trump durcit le ton et ordonne le déploiement de l'armée dans le viseur du président américain, la ville démocrate de Portland. Il évoque une ville en état de guerre. Des manifestations ont eu lieu là-bas depuis plusieurs mois pour dénoncer la police de l'immigration. Donald Trump qui a également autorisé l'usage de la force maximale si nécessaire. 18h passées de 2 minutes, seconde pause dans ce journal avant de passer au sport.
Du 3 au 5 octobre, rendez-vous à la Moselle pour la 15e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale anniversaire avec le grand retour des pays du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis et Futuna, Vanuatu. 3 jours de fête non-stop, spectacles, animations, bonnes affaires chez plus de 250 exposants et des cadeaux à gagner. La Foire du Pacifique, un événement incontournable. Info et programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal, le sport avec Lana Colombo.
À la une de l'actualité sportive, les mondiaux d'athlétisme handisport. Michael Juneski, la compétition commence pour nos athlètes en Inde, à New Delhi.
Le climat risque de jouer un grand rôle dans les performances de l'ensemble des athlètes qui sont sur place. En Inde, il fait chaud, le climat est humide. C'est l'un des ressentis partagés par l'ensemble des participants, y compris nos trois Calédoniens avec l'équipe de France. Vittorio Cavacava, Félicien Siapo et bien entendu Pierre Ferbank, toujours en lice à l'âge de 54 ans. Nous avons fait le point avec leur entraîneur, Olivier Degnaud, le responsable du pôle d'athlétisme handisport de Nouméa.
Donc c'est le deuxième jour de compétition. On va avoir l'entrée en liste de Vittorio Cavacava qui sera en finale du javelot fauteuil. Donc voilà, bah écoute, on espère qu'il pourra s'exprimer au mieux. Tout va bien. Vittorio est arrivé avec Eric Reuillard et Pierre Ferbank il y a exactement 5 jours pour s'acclimater un peu aux conditions météo et au décalage. Il fait très 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 chaud, très humide ici. Ça va être une belle compétition. Écoute, Vittorio est plutôt préparé pour le poids qui aura lieu dans 4 jours. Mais le javelot, bah, je rappelle qu'il avait fait 7e au javelot aux Jeux Paralympiques de Paris. Bah, écoute, on espère qu'il rentrera dans le top 8 et pourquoi pas mieux. Pierre Ferbank est arrivé il y a 5 jours, hein, donc réacclimaté. Donc des entraînements course fauteuil sur le terrain d'entraînement, terrain d'échauffement de la compétition qui se passe plutôt bien. Bah, bien sûr, il souffre un peu de la chaleur, mais de la même façon que ses adversaires. Il est prêt, il est bien, il est serein, il est expérimenté. Bah, on va avoir du bon Pierre Ferbanks. Il rentre en compétition demain, lui, le 29, sur le 400 mètres. Félicien Siapo, qui lui était en stage auparavant. Il était avec moi à l'INSEP pendant une semaine pour faire un stage avec les sprinteurs, où il a bien travaillé tout ce qui était mis en action. Donc je pense que le sprinteur de José Marquez va pouvoir s'exprimer au mieux en série demain matin. Tout va bien pour Félicien, les voyants sont au vert. Il est très sérieux à l'entraînement, il s'entraîne bien dans le groupe. Affaire à suivre. Demain, on en saura un peu plus sur l'état de forme de nos athlètes calédoniens et puis en espérant que ces résultats seront au top.
Les précisions d'Olivier Degnaud, le responsable du pôle d'athlétisme e-sport de Nouméa depuis New Delhi. Notez que lors de la cérémonie d'ouverture, Félicien Siapo a été choisi comme assistant du porte-drapeau de l'équipe de France, le réunionnais Ronan Pallier, athlète non-voyant.
Encore des performances hors territoire du côté des sports de raquettes.
Oui, de jeunes Calédoniens étaient en Nouvelle-Zélande pour les championnats nationaux de tennis de table chez les Kiwis, avec notamment une médaille de bronze dans le tableau féminin pour Floriane Marchandeau. Par équipe, les Calédoniens terminent premier dans la catégorie grade C chez les moins de 13 ans, deuxième chez les moins de 13 ans, catégorie grade B. Chez les moins de 15 ans, ils terminent troisième en grade B et les moins de 19 ans, deuxième toujours dans la catégorie grade B. Et puis du squash hors du territoire, on vous l'annonçait ce matin, les Calédoniens ont brillé aux Océania chez les dames. Vanessa Quash s'est imposée en finale sur la Fidjienne Alison Mua, 3-7-0. Chez les messieurs, Nicolas Masney a décroché la médaille d'argent. En finale, il s'est incliné 3-7-0 face au Samoan Mason Smales. La sélection calédonienne qui s'est également imposée par équipe.
Le sport sur le territoire en natation, le meeting de l'Olympique de Nouméa s'est achevé ce dimanche dans les bassins du Wentoro.
Une belle occasion pour les plus jeunes de se retrouver et de s'affronter dans toutes les catégories représentées, tout en côtoyant Ethan Duménil, invité pour l'occasion après sa participation à ses premiers mondiaux. Les pratiquants ont apprécié cette manière de lancer leur saison. Ambiance.
C'est dur. J'étais sur 50 pas, 50 brasses, 50 crawls, 100 pas, 400 nages libres, 200 pas et les deux relais et le 204 nages. Oui, ça fait longtemps. Ça fait du bien de voir le club comme ça et c'est bien.
50, 100, 200 pas et 400 crawls, 1500 crawls et les deux relais. On a repris une nouvelle saison il n'y a pas longtemps. On en reprise d'entraînement, mais franchement, ça fait plaisir. Il y a des bonnes performances. Et il y a une bonne ambiance, donc moi j'aime beaucoup. Il y a de la course entre les amis, entre les adversaires, donc on est là à se surpasser tout le monde, donc ça j'aime bien. Et Ethan Duménil, on a l'occasion aussi, grâce à ce meeting, de nager à côté de lui, donc de nous aussi d'être tirés par Ethan et nous aussi faire de mon temps, donc franchement je trouve ça cool.
C'était très bien, j'ai bien aimé, il y avait une bonne ambiance.
Il y a une discipline que tu préfères ?
Oui, le 100 nage libre et les 50. La Calédonie a beaucoup de champions, donc on est assez contents.
L'événement se déroulait depuis vendredi soir dans les bassins du Wentoro.
Le football est l'événement du week-end. C'était la victoire de Tigasport en finale du championnat de Calédonie Elite.
Une semaine après la défaite contre l'AS Magenta en finale de la Coupe de Calédonie, cette fois Tigasport s'est imposé pour le titre en Super League. Les joueurs de Tiga ont battu l'AS Gaïcha dans le dernier match sur le score de 3-1. Un doublé de Willy Reid et un dernier but du capitaine Shane Welepan. On l'écoute.
C'est un soulagement, hein. C'est difficile d'arriver jusqu'à ici. J'ai trop remercié la bonne pour leur sacrifice depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. C'était difficile, mais l'équipe qui a le plus joué. Du coup, il fallait être fort mentalement, physiquement. Puis voilà, je suis content, on a répondu présent. Voilà, on a gagné le championnat. Puis on repart, voilà, on est confiant pour l'année prochaine encore.
Et la SC Gaïcha n'a pas démérité en se créant de belles occasions, sans parvenir toutefois à reprendre l'avantage. Dans la petite finale, Yengensport a battu le CA Saint-Louis 3-1 avec un triplé de Bertrand Caille. Le seul but de Saint-Louis signé Cyril Abène lui permet de terminer meilleur buteur du championnat à l'issue de ses play-offs. Cette Super League, nouvelle formule, a livré donc son verdict après ces fameux play-offs intenses. On écoute le président de la Fédération Calédonienne de Football, Gilles Tavergeux.
Une belle finale avec un bon vainqueur. Je pense que Tiga mérite sa victoire et je pense que les buts, surtout le troisième but, a vraiment scellé le sort de cette finale. Gaïcha n'a pas démérité avec une belle équipe quand même de jeunes et donc c'est bien pour l'avenir de notre football.
Cette formule de championnat Super League décidément nous aura tenu en haleine hein, avec ses play-offs voilà, et cette finale. Hein.
C'est surtout cette formule qui a apporté ses fruits puisque maintenant voilà, on voit que les play-offs ont été très intéressants et je pense que maintenant
maintenant, il faut voir comment on peut voir l'avenir l'année prochaine.
Et la saison des clubs est désormais terminée, mais l'AS Magenta jouera encore pour sa part le 7e tour de la Coupe de France à domicile au mois de novembre. Et Tiga Sport disputera de son côté la Haut-Ligue la saison prochaine. Dès mardi, tous les regards seront tournés vers la sélection calédonienne des moins de 20 ans au Chili, qui jouera son premier match de la Coupe du Monde. Ce sera face aux États-Unis, coup d'envoi à 10h pour nous. Et en attendant, dès demain midi, les calédoniennes de la sélection des moins de 19 ans joueront la suite de leur tournoi au FC. Une dernière rencontre face aux Tahitiennes.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Le sport sur la scène internationale avec vous Léo Fichou, et c'est un nouveau titre de champion du monde de MotoGP pour Marc Marquez.
Oui, l'Espagnol sur Ducati a terminé seulement deuxième du Grand Prix du Japon, mais cela suffit pour qu'il décroche un 7e sacre mondial 6 ans après le dernier. Après des années de galères, de blessures, de doutes, Marc Marquez revient au plus haut niveau et égale une autre légende de ce sport, Valentino Rossi. On écoute l'Espagnol forcément très ému après sa course.
Et le champion, c'est lui, c'est Marc Marquez. Il signe aujourd'hui le plus beau comeback de l'histoire du sport.
It's impossible even to speak.
C'est impossible de parler.
Every time when I pass away, just
j'ai
I will enjoy
même
the moment,
envie de me souvenir de tout ce dont je suis passé au travers.
But now I'm in peace.
Je suis
myself,
maintenant en paix avec moi-même.
I did a big mistake in my career.
J'ai fait des grosses erreurs dans ma carrière.
And then,
revenir trop tôt.
You know, I fight and
me battre.
I won again, so.
Et j'ai gagné de nouveau.
I'm on pace.
Je suis en paix.
Marc Marquez, champion du monde pour la 7e fois de sa carrière, c'est donc en MotoGP. Il termine 2e du Grand Prix du Japon derrière l'Italien Pecco Bagnaia, qui s'impose donc sur le circuit de Motegi. Joan Mir complète le podium. Côté français, Fabio Quartararo termine 8e, Joan Zarco 9e. Je rappelle que sur la sprint race, hier, c'est une nouvelle fois Pecco Bagnaia qui s'était imposé devant, encore une fois, Marc Marquez. Quartararo 6e, Joan Zarco avait abandonné.
On passe au rugby. Le 15 de France féminin termine au pied du podium de la Coupe du Monde de rugby. Les Françaises se sont inclinées face aux Néo-Zélandaises.
Ouais, pas d'exploit pour les tricolores, surclassées dans la petite finale par les Black Ferns. Les Françaises perdent ce dernier match sur le score de 42-26 et terminent donc à la 4e place. C'est l'Angleterre qui a décroché le titre à domicile grâce à sa victoire sur les Canadiennes 33-13. Du rugby toujours, mais dans la région cette fois. On jouait ce week-end la 5e journée du Rugby Championship. La Nouvelle-Zélande a dominé l'Australie 33-24. L'Afrique du Sud a écrasé les Pumas argentins 67-30 au classement, alors qu'il reste une seule journée. Les Springboks sont en tête avec un point d'avance sur les Blacks, 4 points sur les Wallabies et 6 sur l'Argentine.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14, à vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Et sur les pelouses du Top 14, le Stade toulousain retrouve sa place de leader du championnat de France.
Oui, les Toulousains qui ont dominé Castres sur le score de 59-12 pour revenir, comme vous le disiez, au sommet du tableau. Derrière, la section paloise a fait tomber Lyon, l'ancien leader, 40-15. Pau est donc désormais deuxième devant les Lyonnais. Le Racing 92 est au pied du podium après avoir battu Clermont 43-31. Les autres résultats, une victoire du Stade Rochelet sur Perpignan, Lanterne Rouge 31-8. Montauban, le promu, a réussi à faire match nul contre Montpellier, 22 partout. Demain matin, en clôture, Bayonne accueillera Toulon. Ce sera à partir de 6h de Nouméa.
En football, le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1.
Le PSG a battu Auxerre pour le compte de la 6e journée du championnat sur le score de 2-0. Mais la liste des blessés pourrait s'allonger avec les sorties prématurées de Vitinha et Gvara, à 4 jours d'affronter le Barça en Ligue des Champions. De son côté, Monaco a perdu sur la pelouse de Lorient 3-1. Enfin, Toulouse et Nantes ont fait match nul de partout. Je rappelle qu'en ouverture, hier, l'OM s'est imposé sur la pelouse de Strasbourg 2-1. La nuit prochaine, à minuit, Nice accueillera le Paris FC. Puis en simultané, à 2h15, 3 rencontres seront au programme. Angers-Brest, Lille-Lyon et Metz-Le Havre. En clôture, demain matin à 5h45, Rennes recevra Lens.
Pour terminer, un mot de golf pour signaler que l'Europe creuse les écart avec les États-Unis à la Ryder Cup.
Dominateur lors des deux premières journées, les Européens mènent désormais 11,5 à 4,5 avec 7 points d'avance avant les simples. Demain, les coéquipiers de Rory McIlroy se rapprochent doucement mais sûrement d'un premier succès sur le sol américain depuis 2012. Pour rappel, la Team Europe tenante du titre a besoin de 14 points pour s'imposer. Les États-Unis, eux, doivent en marquer 14,5 pour remporter cette Ryder Cup.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et merci Léo Fichou. Et maintenant, nous voyons toute la météo avec Pierre.
Cette nuit, le ciel se dégagera rapidement sur l'ouest, laissant place à une nuit bien étoilée, même si un voile nuageux viendra s'installer en fin de nuit. Sur les autres régions, des paquets nuageux circuleront, mais le temps restera sec. Le vent de secteur est soufflera le plus souvent entre 10 et 15 nœuds, encore proche de 20 nœuds sur l'extrême nord, où il retombera localement entre 5 et 10 nœuds sur l'ouest. Les températures minimales baisseront entre 18 et 22 degrés, avec des valeurs plus fraîches de 13 à 14 degrés attendus dans l'intérieur et aux îles. Demain matin, une mince couche de nuages élevés envahira progressivement le ciel. L'ouest profitera d'une atmosphère lumineuse, tandis que quelques nuages bas circuleront ailleurs sans précipitation significative. Le vent dominant s'établira au secteur est autour de 10 nœuds, avec des pointes comprises entre 15 et 20 nœuds sur la pointe nord. Côté marée, elle sera haute ce soir à 23h19 pour redescendre ensuite à 0,46 m demain matin à 5h42 pour ensuite remonter à 1m23 demain lundi à 12h36.
Et merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. 18h15, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.